France Musique.
Bonsoir à tous, bonsoir Émilie.
Bonsoir Rodolphe.
Nous sommes ensemble jusqu'à 22h et dans l'actualité du disque.
Quelques tubes de musique et de films, un hommage à Luis de Pablo qui nous a quittés le 10 octobre dernier. Et puis un anniversaire, un violon aussi et un disque du jour pour commencer. Quelques notes de violon pour ouvrir cette émission. C'est le tout début de Dialogue Ich und Du, concerto pour violon de la compositrice russe Sofia Gubaidulina, qui fête aujourd'hui même son 90e anniversaire.
Bon anniversaire, Sofia.
Ben oui, 90 ans pour cette personnalité
immense
singulière du monde de la musique.
Hein.
Oui, et puis qui a toujours suivi sa propre voie quelque part. Mmh. Elle est assez rebelle, assez anticonformiste, musicienne énigmatique, très indépendante, religieuse aussi dans un pays où la foi est interdite. C'est un esprit libre. D'ailleurs, elle disait, la question fondamentale pour les artistes de ma génération est celle de la liberté, la pensée libérée. Il nous a fallu la conquérir, l'arracher lambeau par lambeau avec nos ongles. Et c'est le chef Andris Nelsons qui célèbre son anniversaire avec un disque qui regroupe trois œuvres enregistrées pour la toute première fois. Dialogue, donc son concerto pour violon dont vous venez d'entendre les premières notes. C'est une œuvre dédiée à Vadim Repin qui est aussi le soliste de l'enregistrement. Et puis il y a deux grandes pièces pour orchestre, The Wrath of God and The Light of the End. On va en entendre d'ailleurs un large extrait de The Light of the End. C'est une commande de l'Orchestre Symphonique de Boston créée en 2003 par Kurt Mazur. Une pièce pour grand orchestre de près d'une demi-heure, remarquée par le son de nombreuses percussions, par la résonance des cuivres, par des tourbillons de cordes qui tournoient façon thriller. Il y a quelque chose de sombre et d'angoissant, mais c'est un petit peu aussi ce qui fait la patte de la musique de Gubaidulina. Très impressionnant au niveau de la texture orchestrale. On va donc écouter la toute première moitié de ce Light of the End.
Thank you.
La première moitié de cette œuvre, The Light of the End, c'est la musique de Sofia Gubaidulina par l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig, dirigé par Andris Nelsons. Elle fête aujourd'hui son 90e anniversaire. On l'avait déjà fêté, cette compositrice, dans le carrefour de la création.
C'était le 7 février 2021, le choix de Sofia Gubaidulina dans le carrefour de la création. Vous pouvez le réécouter sur le site de France Musique.
Et c'est notre disque du jour.
En piste contemporain, Émilie Munera et Rodolphe Bonneau-Boulmier. France Musique.
Thank you.
Ce que vous entendrez sur cet album est fait uniquement et exclusivement avec mon violoncelle. Les possibilités de cet instrument sont illimitées et infinies, et cet album est à la fois une célébration de l'instrument et de la musique de film épique. Lui, c'est Kian Soltani, merveilleux violoncelliste. Je crois que vous l'aimez aussi beaucoup, Émilie. Et vous avez entendu, Bilbo est bien rentré chez lui. C'est la fin du Seigneur des Anneaux, musique d'Howard Shore. C'est un disque pensé et conçu pour le studio, avec un instrumentiste qui enregistre donc les pistes les unes après les autres. Et en soi, on pourrait se dire que c'est déjà un programme, la manière de faire est déjà en soi de la création. Sauf que les vrais compositeurs portent les noms les plus connus dans le milieu du cinéma, Howard Shore, qu'on vient d'entendre, ou Hans Zimmer. Autre grand compositeur, il est allemand, il est naturalisé américain, il vit à Los Angeles. Rien que la trajectoire, finalement, il est destiné à faire de la musique de film. Il est à la tête d'un empire. J'ai été voir la liste de ses compositions, ça vous donne le tournis. On ne sait plus entre les musiques de film qu'il produit, celles qu'il supervise, celles qu'il compose. C'est un véritable empire. Il signe la partition de la dernière grosse production du moment cinématographique, c'est Dune. Est-ce que vous avez vu ?
Mais pas encore, vous m'avez dit qu'il fallait y aller.
La musique est omniprésente de la première minute jusqu'à la dernière minute en continu. C'est assez, finalement assez fascinant. Et il a écrit une autre grande partie. Est-ce que vous avez vu le Da Vinci Code ?
Non.
Eh bien, c'est lui qui avait également... Vous n'allez pas au cinéma, en fait. Ou alors, vous ne regardez pas les grosses productions.
Je regarde que les films d'auteur.
Eh bien, il n'y a pas de Hans Zimmer dans les films d'auteur, je pense. En tout cas, voici ce que ça donnait pour le Da Vinci Code.
Thank you.
La musique de Hans Zimmer, le Da Vinci Code. Ici, c'est au violoncelle, au violoncelle, au violoncelle et au violoncelle. Et tous les violoncelles sont joués par Kian Soltani, un disque publié pour le label Deutsche Grammophon.
Nous aimons beaucoup les études de Ligeti dans cette émission. Vous êtes d'accord, Rodolphe? J'ai dit
et
nous.
Pas que dans cette émission.
Voilà, écrite.
Je les aime ailleurs aussi, quand je les entends au concert,
c'est vrai
chez moi.
Ça me fait plaisir. Vous voulez jouer?
Non, malheureusement, non. Je pense que je n'y arriverai pas.
C'est pas évident, d'accord. Écrite entre 1985 et 2001, elles font partie aujourd'hui de ce qu'on appelle le grand répertoire, régulièrement joué, régulièrement enregistré. Et c'est la luxembourgeoise Cathy Krier qui nous offre aujourd'hui sa vision de l'œuvre, une musicienne passionnée par la musique du XXe siècle, qui a déjà enregistré Janáček, Szymanowski, Schönberg, Dutilleux ou Zimmermann, et déjà Ligeti en 2014, puisqu'elle avait mis ses œuvres en miroir de celles de Rameau. Et donc cette fois, ce sont ses études qui passent sous ses doigts, ces pièces redoutables pour l'interprète, aux inspirations diverses, au langage complexe. Il y a tout dans cette musique, des rythmes et des tonalités qui se superposent, du jazz, de la musique d'Afrique centrale, du minimaliste, c'est ce qui fait aussi sa richesse et sa complexité. Se plonger dans l'univers ligétien est une invitation au voyage abordant mille facettes différentes qui laissent grandir l'interprète lui-même dans son champ de connaissances, mais pas seulement musical, c'est ce que disait Cathy Krier au site Kultur. Un voyage réussi par cette pianiste qui confirme à nouveau toutes ses affinités avec ce répertoire. Finalement, elle parle assez couramment cette langue et on la sent très à l'aise tout au long de ce programme, un univers sonore particulier qui lui va comme un gant. Voici une autre étude, White on White. Wait and Wait, étude pour piano de Ligeti, et ça fait partie du dernier disque de Cathy Krier, la pianiste qui enregistre donc les études du compositeur.
En piste contemporain, Émilie Munera et Rodolphe Bonneau-Boulmier, France Musique.
Un hommage pour finir cette émission. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une nouveauté discographique, mais d'un enregistrement proposé récemment sur les plateformes, puisque le compositeur nous a quitté le 10 octobre dernier, le grand et le génial Luis de Pablo, grand compositeur espagnol né en 1930 et mort donc en 2021. Joyeux avant-gardiste dans les années 60, sa musique n'a jamais été austère et elle a toujours convoqué couleurs, drames, fantaisies et littérature. Et figurez-vous que j'avais eu la chance de le rencontrer dans son appartement madrilène, grand appartement, un dernier étage. Et la chose qui m'avait le plus frappé, figurez-vous, c'est que l'appartement est absolument recouvert de livres. Et alors, lorsque vous arrivez, il vous dit tout de suite qu'à gauche se trouve la littérature du Moyen-Âge. Et plus vous avancez dans l'appartement, quand vous avez fait le tour de l'appartement, eh bien, vous finissez sur votre droite à la littérature récente. Et entre-temps, eh bien, vous avez toute l'histoire de l'humanité qui passe dans son appartement. Et d'ailleurs, Luis de Pablo était un humaniste. Il parlait couramment le français. C'était un homme aimé pour sa fantaisie, un grand professeur. Et je pense qu'il va manquer à la musique espagnole. Voici une de ses grandes pièces pour orchestre, c'est l'Orchestre symphonique de Tenerife, sous la direction de Victor Pablo Pérez, et ça s'appelle Las Orillas, qui veut dire les rivages. Las Orillas, c'est la musique de Luis de Pablo qui nous a quittés le 10 octobre dernier, l'Orchestre symphonique de Tenerife sous la direction de Victor Pablo Pérez. Ce disque, il est difficile à trouver, sauf sur les plateformes de téléchargement.
C'est l'heure du journal de la création. Bonsoir Laurent Villarène.
Bonsoir Laurent.
Bonsoir Émilie, bonsoir Rodolphe. Alors vous allez voir, on part sur un très gros journal. Selon vous, qui a les plus beaux cheveux parmi les compositeurs de musique contemporaine ?
Ah, c'est pas évident. Il y a la chevelure de Pascal Dussapin.
Oui, oui. Ou les cheveux longs de Philippe Manoury.
Ah,
oui,
très bien. J'avais aussi pensé à Heinz Holliger. Vous savez, il a une sorte de petit catogan alors qu'il est chauve. C'est très joli. Mais les plus beaux cheveux, c'est probablement ceux du compositeur dont j'ai entendu la musique il y a à peu près 3 semaines. Oui, je voulais revenir sur l'Écossais James Dillon, dont l'ensemble intercontemporain dirigé par Pierre Bleuze donnait dans le cadre du Festival d'automne une vaste œuvre appelée Pharmakeia, qui veut bien dire pharmacie, et j'étais ébloui par cette heure de musique qui soigne. Le concert est toujours en écoute sur le site de France Musique. James Dillon est un maître de la musique d'aujourd'hui. Un autre tour de concert, la soirée du Philharmonique de Radio France, dirigée par Thomas Hadès. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive, j'étais parti pour pas aimer. J'avais détesté les œuvres récentes d'Hadès. J'étais en mode compositeur postmoderne. Le concert était exceptionnel. Il y avait du Janáček et 3 pièces de Thomas Hadès, dont son concerto pour piano, et ça m'a cassé la gueule. C'était éblouissant. Parmi les spectacles que j'ai vus, je ne vais pas vous parler des spectacles que j'ai détestés, comme Siegfried Nocturne de Jarrell à l'Opéra de Nantes, dont je ne vais pas vous en parler.
Ah, mais vous y étiez donc.
Mais je voudrais évoquer la création d'Au cœur de l'océan, au Théâtre de l'Athénée, qui est signée par 2 compositeurs, Frédéric Blondy et Arthur Lavandier. On connaît bien dans ce journal, vous vous souvenez de
Arthur oui, de son téléphone.
De son répondeur.
C'est collecteur, je crois. Au cœur de l'océan est une œuvre très expérimentale, mais quand je vous dis c'est très expérimental, ça commence comme une comédie musicale, et à la fin, Stockhausen, ça ressemblerait à une comédie musicale. Les personnages se parlent par onomatopée. Alors je vous raconte un peu ma vie. J'y suis allé avec ma belle-mère, qui n'est pas du tout branchée musique contemporaine. Eh bien, vous savez quoi ? Elle a adoré.
Ah, ben oui, comme quoi.
Au cœur de l'océan de Blondy et Lavandier est provoquant, fascinant, c'est l'une des grandes réussites de l'ensemble Le Balcon. Émilie Rodolphe, ce soir, je me transforme en animateur météo, en Laurent Romeschko, car on part aux 4 coins de France.
Vous êtes très années 90, hein, je crois, Laurent Romeschko, il ne présente plus la météo.
C'est plutôt des consonnes voyelles.
Et oui, même ça, il le fait encore ?
Ah, je crois.
Ah, il est infatigable. Alors, on commence par la région Rhône-Alpes-Auvergne. Je ne sais pas pourquoi je prends l'accent du Sud. Avec le festival Musique Démesurée en Auvergne.
C'est pas l'accent d'Auvergne en tout cas.
Oui, vous allez le faire ?
Non.
Donc le festival Musique Démesurée en Auvergne commence ce mercredi 27 octobre. On a mis les concerts sur la page de l'émission. La manifestation se tient jusqu'au 7 novembre à Clermont-Ferrand. Pas très loin, à Firminy dans la Loire, la 3e biennale de musique vocale contemporaine se tient du 6 au 14 novembre. Et toujours en Rhône-Alpes, le Gramme de Lyon ouvre une série de nouveaux concerts, les pop-up exploratoires. Le premier se tient le 30 octobre à l'auditorium Maurice Ravel. Le concert est présenté par Guillaume Kosmicki. J'ai un petit jeu pour vous. Alors, vous ne regardez pas ce qu'il y a écrit sur le conducteur.
D'accord.
Rodolphe a les yeux dessus déjà.
Non,
ça va être
pas,
dur comme vous allez
pas.
Faire.
J'ai un pop-up qui vient de s'ouvrir.
On parle souvent des écrivains dont on reconnaît le style en 2 phrases. Est-ce que vous reconnaissez ce compositeur en 20 secondes de hautbois ?
C'est un français.
C'est un français.
Faites
semblant de ne pas voir ce qui est écrit. Oui, c'est Henri Dutilleux. Il habitait l'île Saint-Louis. Vous êtes déjà allé chez lui ?
Non.
Non.
Mais il avait une autre région de cœur, celle de Chinon et Candes-Saint-Martin. Et merveille, du 29 au 31 octobre, se tient le premier festival Dutilleux. Ça a l'air magnifique. Parmi les événements, l'orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine de Jean-François Esser donne le mystère de l'instant et la création d'un concerto pour trompette de Baptiste Trottignon. D'autres événements, Donatienne Michel Danzac chante le temps l'horloge de Dutilleux et l'ensemble Kern offre une création de Jérôme Combier. Le festival Dutilleux, se tient du 29 au 31 octobre à Chinon et Candes, Saint-Martin. En Ile-de-France, je signale deux événements. Le premier, c'est le 26 octobre à l'espace Cardin, Talking Music du compositeur phare du Festival d'automne, Philippe Venables. Mais on en reparlera lorsque sera donné son opéra 448 Psychose d'après Sarah Kane. Mais le grand événement se tient dans notre maison de la radio avec présence électronique les 30 et 31 octobre. Il y a des œuvres de François Bell, Marc Fell, qui est un très gros nom, une création de Pierre-Yves Massé. Rodolphe, vous êtes le bof du carrefour de la création et on a prévu, je crois, un carrefour en compagnie du...
Absolument. Et on a fait aussi des archives François Bayle.
Absolument. C'était, beaucoup, oui, c'était la semaine dernière.
Beaucoup de mails d'auditeurs qui étaient fascinés par cet univers.
Le 31, à 16h30, il y aura donc une création de Pierre-Yves Massé, mais également de Bérangère Maximin, qui a une commande de l'INA GRM. Moi, ça me parle de découvrir toutes ces musiques. Alors, nous irons tous au festival Présence électronique du 30 au 31 octobre à la Maison de la Radio à Paris.
Pourquoi composez-vous ? C'est la question que vous posez à des créateurs toutes les semaines, Laurent.
Oui, nous interrogeons un compositeur indépendant. Alors, je ne vous ai pas posé la question. Vous vous rappelez du sondage où on demandait aux compositeurs trois œuvres marquantes depuis 2000 ? Vous
auriez répondu. Oui, oui, oui. Quoi, il y avait George Benjamin.
Oui, mais qu'est-ce que vous auriez répondu, vous ?
Moi, j'aurais répondu
à brûle pour point, comme ça.
Jörg Widmann. Les neuf de Jörg Widmann, ça vous va ?
Laquelle ?
Celle autour de la musique de Schumann, le Conte de Fées.
Et vous, Rodolphe ?
Ah là là, quelle question difficile. Ah ouais, franchement, comme ça, Index of Metal, comme beaucoup.
Qui était classé, eh bien moi, je vous remercie de me poser la question, à moi. Les hommes politiques,
oui,
ils parlent comme ça, et après ils comptent avec leurs doigts, vous voyez. Alors en un, j'aurais répondu Transmission de Frank Bedrosian, Become Océan de John Luther Adams,
ah,
et
bien,
l'opéra
ouais.
The Second Woman du compositeur qu'on appelle ce soir Frédéric Verrières. Verrières, c'est vraiment l'homme des projets fous. Il y a du Borges et du Don Quichotte chez lui. C'est l'un des compositeurs français les plus audacieux et il est avec nous ce soir. Bonsoir Frédéric Verrières.
Bonsoir.
Alors j'ai une question pour vous. Pourquoi composez-vous ?
Alors je compose avant tout pour échapper à l'enfer du monde du travail, à l'enfer du bureau et même du télétravail en ce moment. Quoique je n'ai pas tout à fait échappé, il y a eu quelques rendez-vous quand même sur Zoom. Mais voilà, je pense que j'ai été élevé dans une famille... Enfin, j'ai été élevé dans une famille d'artistes bohèmes. Mon père était parolier, il a été interprété par Yves Montand, par Barbara. Et il m'a élevé un peu dans la hantise des métiers conventionnels, je crois. Il en est resté quelque chose. Je crois que même si j'avais réussi le concours de l'ENA et que j'étais devenu président de la République, ça aurait déplu. Donc voilà, j'ai choisi compositeur. Voilà, je crois que c'est un métier qui plaisait à mon père aussi.
Merci beaucoup Frédéric Verrières.
Merci à vous.
Et pour finir dans la rubrique Recréation, Laurent.
Oui, c'est donc The Second Woman,
ah bah,
de
bien.
Frédéric Verrières. On va entendre un petit extrait, vous allez voir, vous serez conquis. À la création au Bouffe du Nord en 2011, je ressors les vieux dossiers, j'avais écrit sur un site internet, c'est la fougue de la jeunesse, l'opéra de Frédéric Verrières est la proposition la plus riche... Alors, excusez-moi. L'opéra de Frédéric Verrières est la proposition lyrique la plus fraîche et la plus novatrice, sans doute jamais écrite par un compositeur français depuis le début de ce siècle.
Ah oui, là vous étiez
fou. J'ai lâché, oui, j'ai les sabots. Oui. Et j'ai réécouté, et c'est toujours aussi beau. C'est un mélange de beaucoup de choses merveilleuses, et en plus, c'est marrant. Je continue à penser que c'est un très grand opéra qu'il faudrait redonner rapidement, car il y a une énergie unique entre théâtre, chanson, musique spectrale, en tout cas beaucoup de choses merveilleuses qui sont brassées admirablement. Et il y a notamment une chanson pop, chantée à l'époque par Jeanne Chéral. Écoutez ça. I know a dog who loves a gallant, loves a gallant wolf. I know a dog, I know a dog who loves a gallant, who loves a gallant wolf. Hey, but she suggests all the days go by. Oh! extrait de The Second Woman de Frédéric Verrières.
Merci Laurent Villarem, à la semaine prochaine.
Et merci à notre équipe ce soir, Claire Lagarde, Lisa Crépy, Pauline Boisaubert et Frédéric Kiefer aux manettes.
Votre soirée se poursuit jusqu'à minuit et demi. À 23h30, l'expérimental avec en invité Elzbieta Sikora. Vous entendrez à 23h la création mondiale de Tomoko Sauvage. Mais tout de suite, carrefour de la création, carte blanche à la compositrice Suzanne Giraud.
À réécouter sur francemusique.fr.